Bonjour à chacun. La raison qui fait que je suis devant vous sur l'estrade ce matin, c'est qu'il y a 15 jours, j'avais la prédication et je ne suis pas arrivé au bout. Alors, on m'a demandé de revenir. Je ne pensais pas être là dès ce matin, mais les anciens se sont organisés, ont nettoyé le planning pour que je sois là. Alors, voilà. On poursuit, je ne vais pas pouvoir reprendre tout ce qui a été dit la semaine passée, sinon il faudra me redonner une séance de plus. Donc, voilà, si certains sont curieux, n'étaient pas là, je crois qu'il y a un enregistrement qui est quelque part sur Internet. Je rappelle quand même qu'on est dans le sujet des lettres de l'apôtre Jean aux sept églises de l'Asie mineure. Ces églises, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et ces lettres sont construites toutes sur le même modèle. Vous les relirez à la maison. Elles ont la même structure. Et il y a notamment une petite phrase que l'on trouve dans chacune d'elles, c'est la suivante. À celui qui vaincra, je donnerai différentes choses, mais c'est cette phrase qui sert de fil conducteur à la méditation de ce matin. Et il ne s'agit pas de regarder chacune de ces lettres en particulier, l'idée c'était d'avoir un regard global sur l'ensemble, et c'est pour ça que mon intention initiale, c'était de faire ça en une fois. Mais je n'y suis pas arrivé. Alors, voilà le complément ce matin. Et pour se placer, en quelque sorte, dans le contexte, dans la situation, on va lire deux de ces lettres. On va lire la troisième, qui est à l'église de Pergame. Et vous remarquerez que c'est l'apôtre Jean qui écrit. Mais l'auteur véritable, c'est le Seigneur. Écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à chacune de ces églises. Et vous verrez que le Seigneur est présenté de diverses manières, selon les églises auxquelles il s'adresse. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et voilà la petite phrase. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et on va lire la sixième lettre à l'église de Philadelphie, donc chapitre 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette dernière phrase aussi se retrouve dans toutes les lettres et nous invite à prêter attention. Ces lettres ont été écrites au 1er siècle, mais elles nous parlent aujourd'hui, aujourd'hui encore, et c'est ce que nous voulons regarder. On a dit la dernière fois que ces lettres étaient comme le diagnostic que le médecin porte sur un patient. Le Seigneur a ausculté ces églises. Si vous allez chez le médecin, il va ausculter votre cœur, vos poumons, le foie, l'estomac, et puis donner son avis, son diagnostic. Et bien ici, le Seigneur examine les églises sous différents angles. Parfois, il leur fait des compliments sur certains points, et ces compliments sont souvent introduits par ces mots « je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ta persévérance ». Et puis parfois, il fait des remarques plus qui contestent la situation, des remarques négatives, des reproches, on pourrait dire. Et souvent, c'est introduit « mais ce que j'ai contre toi, c'est ceci ou cela ». Et j'ai fait un peu la lecture, en faisant la lecture globale des sept lettres, j'ai repéré en quelque sorte quatre organes, comme le médecin qui examine les organes du corps, le Seigneur examine les organes de la piété de l'Église. Et j'en ai relevé quatre de ces organes. Il examine leur foi, il examine leur amour, il examine leur sainteté, il s'agit de la question morale, et il examine leur persévérance au sein de l'épreuve. Et on a vu d'ailleurs que l'église de Pergame, par exemple, avait affaire à une forte épreuve, puisqu'il y avait même un martyr au nombre de ses membres. Et la dernière fois, eh bien, on a vu les deux premiers points, la foi et l'amour. Et on a vu, donc, c'est la fameuse petite phrase qui sert de fil conducteur, « à celui qui vaincra, je donnerai ». Et nous sommes appelés à vaincre dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la foi, dans le domaine de la sainteté et de la morale, si vous voulez, et dans le domaine de la persévérance dans l'épreuve. Quatre points sur lesquels le Seigneur regarde l'Église et prononce un avis, une évaluation de la qualité de vie, de piété de cette Église. Je ne peux pas donc redétailler les deux premiers points, mais juste en deux mots, nous sommes appelés à vaincre sur le terrain de l'amour. Et l'introduction de Roland ne pouvait pas mieux tomber. L'amour. Comment vaincre sur le terrain de l'amour? Eh bien, en nous opposant à l'égoïsme, à l'insensibilité qui nous habite naturellement. En retrouvant l'élan du cœur qui nous pousse vers l'autre, vers le Seigneur, vers les frères, vers nos contemporains. En cultivant sincèrement au fond de nos cœurs une image positive de notre prochain. Vous savez, on est maître dans l'art de préserver les apparences, d'être aimable. On peut être aimable avec beaucoup de gens. Et puis, dans le fond de notre cœur, on n'en pense pas moins. Et le travail de l'amour, c'est d'aimer l'autre, c'est un travail intérieur avant de donner des marques qui ne pourraient être que de l'apparence. Il faut travailler vraiment dans le fond de notre cœur, le tréfonds de notre âme. On a vu que le Seigneur nous appelle à vaincre sur le terrain de la foi. Comment ? En résistant à l'incrédulité, au matérialisme ambiant de notre société. J'avais parlé la dernière fois de la sécularisation de toute la pensée du monde actuel. Vaincre sur le terrain de la foi en reconnaissant qu'il n'y a que dans la rencontre avec notre Dieu créateur, notre Dieu sauveur, notre Dieu Seigneur, qu'on trouve les vraies réponses aux vraies questions existentielles qui se posent au cœur de l'homme. C'est dans cette rencontre, par la foi, que l'on trouve l'apaisement de l'âme. Et alors ce matin, on va s'intéresser à ces deux autres terrains. Vaincre sur le terrain de la sainteté ou de la morale et vaincre sur le terrain de l'épreuve qui exige de notre part la persévérance. Alors d'abord, vaincre sur le terrain de la morale. On a vu dans cette église de Pergame que l'impudicité, l'immoralité s'étaient installées. Elles s'étaient installées. Et le Seigneur, bien sûr, dénonce l'inconduite qui est grave de ses croyants. Mais j'aimerais faire remarquer la chose suivante. Il vise non seulement l'inconduite de ces gens, mais encore plus, il vise, voyez, au verset 14, chapitre 2, verset 14, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Ça fait référence à une histoire de l'Ancien Testament sur laquelle je ne veux pas revenir. Mais il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Tu as des gens qui enseignent à mettre une pierre d'achoppement. C'est une chose, l'inconduite, une chose grave. Mais il y a plus. Il y a ceux qui enseigne, qui encourage, qui justifie cela. Non seulement le Seigneur s'adressant aux pharisiens, ou parlant des pharisiens plutôt, il disait non seulement ils font le mal, mais ils justifient ce qu'ils font. Et aujourd'hui, à longueur de médias, vous entendez des penseurs, des hommes politiques, des chefs de divers lobbies qui justifient l'injustifiable, qui défendent des façons de vivre, des façons d'enseigner la jeunesse, qui portent préjudice à la famille, à la société, au pays tout entier. Aujourd'hui, non seulement on pratique le mal, mais on a toute une doctrine qui justifie de faire le mal. Et les arguments sont parfois irrésistible. Et si vous résistez à cette argumentation, vous êtes relégué au rang de personnage du Moyen-Âge. L'évolution des styles de vie, des mentalités, des lois, se fait aujourd'hui à marche forcée. On ne se donne même plus le temps pour tester ces idées, pour voir ce qu'elles pourraient avoir comme résultat, bon ou mauvais. On y va dans une course folle, irréversible, comme si le monde allait à son terme. Il y a des valeurs auxquelles nous, chrétiens, on tient beaucoup. L'amour, la tolérance, l'égalité, la dignité de l'homme. Et aujourd'hui, c'est au nom, paradoxalement, c'est au nom de ces valeurs qu'on justifie tous les dérèglements de la société. Au nom de la liberté, de l'égalité, de l'amour, de la tolérance, de la dignité, on efface la distinction entre hommes et femmes. On met sur pied d'égalité tous les couples, et des couples à géométrie variable, à géométrie très variable, et on dit l'essentiel, c'est que les gens s'aiment. D'ailleurs, on se demande pourquoi on se limite à des couples, parce qu'on peut s'aimer aussi à trois, à quatre. Donc, mais au nom de l'égalité, au nom de l'amour, au nom de la tolérance, toutes des valeurs qui nous sont précieuses, pour lesquelles on est prêt à s'engager pour les défendre, au nom de ces mêmes valeurs, on argumente pour justifier les dérapages les plus graves. C'est ce qui était reproché dans cette église de Pergame. Il y avait des gens, non seulement qui faisaient le mal, mais qui enseignaient et qui donnaient de bonnes raisons pour que les gens persévèrent dans le mal. En fait, on a perdu de vue le cadre, l'usage naturel de ces valeurs pour les appliquer à tort et à travers aux impulsions humaines qui poussent l'homme toujours plus loin dans l'éloignement des normes héritées de l'histoire, et notamment de l'histoire chrétienne. Alors, est-ce que c'est faillir à l'amour que de dénoncer cette situation? Vous savez, aujourd'hui, on est vite qualifié de phobe, avec tout ce qu'on peut mettre devant. Au nom de l'amour, on ne peut plus rien dire sur rien. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'amour. L'amour est important. L'amour ne se précipite pas pour condamner, pour viser, pour juger, pour démolir. L'amour respecte, l'amour patiente, il supporte, il pardonne, il espère. Mais pour autant, l'amour ne couvre pas le péché. L'amour n'autorise pas à ce que nous nous taisions. Au contraire, le péché doit être dénoncé, mais en même temps, nous devons chercher à guérir et bénir le pécheur. Alors, si le Seigneur Dieu n'est pas la référence de notre comportement moral, où est-ce qu'on va trouver des références? Eh bien, les références du monde d'aujourd'hui, il les a sous la main. Les références, c'est « j'en ai envie ». Tout le monde le fait. la loi le permet, les possibilités de la science, de la biologie mettent ces choses à notre portée et on s'en tient à cela. Alors on a de temps en temps un comité d'éthique qui se met en place, qui donne des directives, mais directives qui seront abolies, remplacées par d'autres quelques années plus tard, parce que nous sommes dans une dynamique qui nous éloigne de Dieu. Alors, quelle est la nature de notre combat? On a dit vaincre sur le terrain de la morale, de la sainteté. Quelle est la nature de notre combat? Est-ce que c'est manifesté? Est-ce que c'est établir un rapport de force avec les autorités pour empêcher telle loi de passer? On peut le faire avec mesure à un moment ou à un autre, mais je remarque ceci, c'est que le Seigneur et les disciples ont vécu dans une société qui n'était pas plus accueillante à la foi que la nôtre, et ils ne se sont jamais engagés dans cette voie. Dieu, par contre, dans sa parole, nous incite à garder notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez des sources claires, des sources pures, limpides, au fond de nous. Gardez des pensées saines. C'est tellement important. Vaincre sur le terrain de la sainteté, c'est d'abord, avant tout, cela. Garder notre cœur, garder nos pensées saines, capables de réactions appropriées. Et puis, ces pensées, les mettre en œuvre dans notre vie personnelle, dans chercher à les faire valoir autour de nous, dans le petit périmètre qui relève de notre responsabilité, notre famille, l'Église. Certains pensent devoir appliquer cela au niveau de la société, du pays, et en font un bras de fer avec l'État, mais je crois que ce n'est pas juste. C'est pas ce qu'on lit dans la parole. Par contre, vaincre à celui qui vaincra, c'est quelque chose qui s'adresse d'abord à l'individu, qui s'adressait à une Église, qui ne s'adressait pas à une société, un pays tout entier. Et notre rôle est d'être le sel de la terre et de garder notre saveur. Et quatrième terrain sur lequel nous sommes appelés à vaincre, c'est le terrain de l'épreuve, où nous devons faire face à des situations difficiles. L'épreuve nous atteint tous à un moment ou à un autre de notre vie, et puis elle nous atteint parfois plus qu'à notre tour. Il y a toutes sortes de difficultés qui nous atteignent personnellement, qui nous atteignent dans notre couple, qui nous atteignent dans notre famille, qui nous atteignent dans l'Église. Des épreuves qui nous font mal. Et en plus de souffrir de ces épreuves, on souffre aussi de ne pas comprendre pourquoi Dieu permet cette épreuve. C'est une épreuve de plus que de pouvoir entrer dans cette compréhension que le Seigneur puisse permettre ces difficultés. Mais la Bible nous avertit, l'apôtre Pierre dit dans son épître, « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui vous atteint. Ne soyez pas surpris face à l'épreuve qui vous atteint. » Et puis, l'épreuve, on va dire, que nous partageons avec tous les hommes, avec toute la condition humaine, s'ajoutent les épreuves dues à notre foi. Et c'était le cas de l'Église de Pergame. Pourquoi était-elle dans l'épreuve? elle avait certainement ses soucis, chacun avait ses soucis comme tout le monde, mais en plus, il y avait une opposition féroce à l'exercice de la foi en son sein, par le, l'environnement de la ville, du pays dans lequel se trouvait cette église de Pergame. Aujourd'hui, nous avons la liberté de conscience, de nous réunir, de célébrer le Seigneur, d'avoir ce culte. Merci, un grand merci à notre démocratie qui le permet. Ça n'a pas toujours été le cas au cours des âges, même dans des temps pas si lointains que ça. Mais la pression contre la foi existe néanmoins, sous forme de la mentalité ambiante. Et vaincre l'épreuve, c'est résister à cette pression exercée par le contexte. C'est une forme aussi de persécution, même s'il n'est pas de nature physique, comme elle a pu être à certains endroits aujourd'hui ou dans le passé. Il nous faut résister à cette mentalité incrédule, matérialiste, dont j'ai parlé plus haut. Et qui peut nous assurer que cette pression contre la foi ne sera pas un jour inscrite dans nos propres lois? Qui peut assurer que demain, nous, parents chrétiens, aurons encore la liberté d'enseigner nos enfants dans les valeurs que nous avons à cœur, sous prétexte que nous les conditionnons, que nous en faisons des individus inaptes à entrer dans la société telle qu'elle fonctionne? Qui nous assure? Il y a déjà des lois aujourd'hui sur la question de la correction des enfants. Sous prétexte qu'un certain nombre de parents se comportent comme des brutes, on généralise une loi à toutes les familles. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce que c'est une forme de violence aux yeux du monde quand nous enseignons les valeurs chrétiennes à nos enfants. En tout cas, un certain nombre de points de la foi chrétienne à nos enfants, c'est considéré comme une forme de violence. Vaincre sur le terrain de l'épreuve. On n'aime pas souffrir, moi non plus. Et aujourd'hui, plus que jamais, on cherche à tout prix à esquiver la souffrance, même quand celle-ci pourrait avoir une utilité. Une utilité pour notre croissance d'homme, pour notre croissance d'enfant de Dieu et pour le témoignage à la gloire de Dieu que nous devrions porter dans le monde. Ce sont tous des aspects de la souffrance qui font partie du plan de Dieu pour nos vies. La Bible nous donne l'exemple de Job qui a été éprouvé de tant de façons. Et la conclusion du livre de Job, c'est ceci, ce témoignage de Job. « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je crois que beaucoup d'entre nous peuvent donner cet écho que dans les difficultés, dans les contrariétés qui nous ont peinés, qui nous ont fait souffrir, la présence de Dieu s'est fait plus proche et non seulement nous en avons entendu parler, comme ce matin, mais nous l'avons vu à l'œuvre, vu avec les yeux de la foi. Marie Durand, cette huguenote du XVIIIe siècle, a passé 38 ans de sa vie enfermée, prisonnière, pour sa foi, dans la tour de Constance. À Aigues-Mortes. Il lui suffisait de dire un mot, d'abjurer et elle était délivrée. Elle est restée 38 ans sans abjurer, en laissant un mot sur la margelle du puits de cette tour où elle était enfermée, résister. Résister. C'est, voilà, imaginez une vie aux yeux des hommes, c'est une vie fichue. 38 ans en prison. Et les années avant, c'était des années déjà où il fallait éviter la persécution de toutes les manières possibles. Et puis, après ces 38 ans, elle en est sortie, mais 8 ans après, elle est décédée, vieillie prématurément par l'épreuve qu'elle a subie. Une vie fichue, mais qui tient en un mot lumineux, résister. Quel témoignage ! On parle encore aujourd'hui du témoignage de cette femme. Beaucoup entre nous auront eu des vies pleines, intéressantes, captivantes, on aura fait des réalisations de toutes sortes, mais passerons dans l'oubli. Cette femme, une vie apparemment manquée, mais dont le témoignage simple, concis, a un impact aujourd'hui encore. Marie Durand était du nombre de ses vainqueurs dans l'épreuve. Aujourd'hui, le mot à la mode face à l'épreuve, ce n'est pas trop de résister, c'est plutôt de rebondir. Hein ? Alors, ce n'est pas tout faux. Pas tout faux. Face à une épreuve, il faut quand même aussi, à un certain moment, pouvoir sortir, passer à autre chose. Mais souvent, ça signifie esquiver le problème. Tourner la page le plus vite possible, penser à autre chose, sans tirer les leçons qui auraient pu être utiles de l'expérience vécue. Difficulté à persévérer face à la difficulté. Aujourd'hui, on le voit avec les enfants qui sont inscrits à un club de sport, à un club d'activité. Bon, dès que ça ne va plus, on arrête et puis on inscrit l'enfant à un autre club et on recommence. Alors, je ne dis pas et je ne juge pas ces situations quand on doit effectivement s'adapter, changer. Il y a aussi du vrai là-dedans, mais la souffrance aujourd'hui, la difficulté est devenue intolérable. Lorsque le couple bat de l'aile ou lorsque l'Église déçoit, on se sépare. Je sais qu'il y a des cas où il faut se séparer dans un couple, dans l'Église. Même la Bible donne le témoignage de deux serviteurs de Dieu fidèles, Paul et Barnabas, qui ont dû se séparer. Donc, ça existe. Mais ça ne devrait pas être le premier réflexe. Ça ne devrait être qu'un dernier recours. Les plus belles choses, elles s'acquièrent au travers d'efforts, de persévérance, d'échecs surmontés. Comme l'alpiniste qui fait l'ascension, la conquête d'un sommet, ou la femme qui accouche de son enfant. Il y a des passages obligé, difficile, pénible, mais comme le disait Roland, le Seigneur est présent dans toutes ces circonstances. Il nous donne la main et nous invite à vaincre. Combattre, c'est la guerre. Il y a toutes sortes de guerres. Il y a la guerre éclair, il y a la guerre d'usure. Et dans l'épreuve, c'est la même chose. Il y a des épreuves éclairs qui nous tombent dessus. Ce n'était pas prévu. Un accident, une embûche sur le chemin. Et on est pris au dépourvu. Face à la guerre d'éclair, à la guerre éclair, il nous faut savoir anticiper, nous préparer. Puis à la guerre d'usure, quand une maladie vous taraude, et sans solution, une situation qui dure depuis 10 ans, 20 ans, et jusqu'à présent, rien n'a bougé. L'usure, la guerre d'usure. À celui qui vaincra, je donnerai. Alors, on ne peut pas prétendre, par anticipation, pouvoir résister à la difficulté. Mais nous pouvons cultiver la relation avec le Seigneur, la proximité, et aussi travailler, se faire à l'idée que l'épreuve fait partie du plan de Dieu. Et si nous avons équipé notre âme de cette pensée et de cette pratique d'une relation permanente avec le Seigneur, alors je crois que nous avons les moyens pour faire face à l'épreuve. Et là, on en arrive à cette interrogation, mais qui peut vaincre ? Le défi est devant nous, mais est-ce que nous sommes à la hauteur pour le relever ? Imaginez qu'on puisse vaincre par nos propres forces, c'est courir le risque du légalisme. Et c'est s'exposer à de redoutables déconvenues. Aussi déterminé qu'on puisse être, quelle que soit la force de notre volonté, la victoire, de loin, dépasse les moyens que nous, humains, pouvons y mettre. Si nous nous tenons à nous-mêmes, si nous voulons vaincre, servir Dieu, rester fidèles dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté, dans la persévérance, si nous voulons tenir par nos propres forces, tôt ou tard, on va devoir s'écrier comme l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et la Bible se plaît à parsemer tout le récit de l'histoire biblique par des combats, des victoires, aussi des défaites, mais on voit tellement de victoires inattendues où c'est le Seigneur qui réalise l'objectif. Pharaon, quand il laisse partir le peuple, Pharaon, lorsque son armée est détruite, quand il poursuit Israël lors de la mer, du passage de la mer Rouge, Amalek, quand il poursuit Israël et essaie de l'attaquer par derrière, et Aaron, Hur, sont sur le sommet de la montagne avec Moïse levant les bras et l'invocation de Moïse conduit Josué dans la plaine à remporter la victoire. Gédéon qui s'attaque à toute l'armée de Madian avec 300 hommes et avec une stratégie tout à fait particulière que vous connaissez. David contre Goliath. Ézéchias, il se trouve pris au piège dans Jérusalem, assiégé par le roi Sanchérib, roi d'Assyrie, un roi extrêmement puissant, auquel il est impossible de résister. Et Ézéchias vient, prend la lettre qu'il a reçue de ce roi assyrien, qui lui déclare la guerre, et il ouvre cette lettre devant l'Éternel. Et il dit, mais Seigneur, moi, je suis qu'un petit insecte devant toute cette armée, accomplis ton œuvre, délivre-nous. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et c'est dans cette position d'humilité, de dépendance, mais attention, de dépendance par rapport au grand Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, que nous pouvons être en mesure de résister. pour tenir ferme, rien ne remplace le fait de regarder au Seigneur lui-même. Roland nous a lu le texte de Jésus à la croix. Si vous voulez vous équiper de ressources pour vivre, vaincre sur le plan de la foi, de l'amour, de la sainteté, de l'épreuve, regardez à Jésus. Regardez au temps de sa tentation, après 40 jours de désert et de jeûne. Regardez à la manière dont il a résisté au travail d'usure que les pharisiens lui opposaient, à tous les contradicteurs qui venaient. Pendant 3 ans, il a dû résister à cette pression, pression mentale, mais qui est devenue une pression physique à la fin de son ministère. Et puis, le Seigneur à la croix. Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de l'amour, de la persévérance? Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de la foi, la confiance en Dieu? À un certain moment, il y a eu comme un doute, « Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelque temps après, il est dit qu'il remit son âme entre les mains, les bras de son Père. C'est parce que Christ vit en nous, c'est parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, qu'il nous est permis et qu'il nous est possible d'être vainqueurs à notre tour. Et puis, 2 mots sur la fin de la petite phrase. « À celui qui vaincra, je donnerai. » Alors, je ne peux pas détailler ce que le Seigneur donne dans le détail, mais je relève simplement cela comme un bouquet recueilli dans les différentes lettres. « À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau, un caillou blanc, un vêtement blanc, la couronne de la vie, la manne cachée, l'arbre de vie, l'immortalité, une place à mes côtés sur le trône. » Voilà un bouquet glané dans toutes ces lettres. Alors, je ne peux pas m'engager sur la signification détaillée de chacun de ces symboles, mais on peut saisir pleinement, globalement, combien ces images nous donnent à ressentir l'abondance, la pureté, la gloire, l'éternité de notre condition céleste. Pleinement, pleinement comblé, satisfait par la grâce divine. Et je relève tout particulièrement la mention du nom. Le nom, vous savez, en Israël, était quelque chose d'important. Le nom. Il y a des généalogies avec des noms. Il y a le nom de Dieu que les Juifs ne prononçaient pas, le fameux tétragramme, Yahvé, qu'ils ne prononçaient pas. Le nom a une grande importance. C'est une sorte de concentré de l'individu, de l'identité de la personne. Le nom. Toute l'étendue de la personne est en quelque sorte concentrée dans son nom. Et je lis dans Apocalypse 3 au verset 12, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Et puis dans Apocalypse 3 au verset 5, je confesserai son nom devant mon Père. Dans un cas, c'est le nom de Dieu qui est déposé sur l'homme, et dans l'autre cas, c'est le nom de l'homme qui est confessé devant Dieu. Il y a une rencontre du nom de l'homme et du nom de Dieu. C'est comme un témoignage de l'unisson que le Seigneur a en vue entre lui-même et sa créature. Et plus encore, on l'a vu, l'homme est invité à s'asseoir avec le Seigneur sur le trône, à régner dans la vie par Jésus-Christ. C'est encore une expression qu'on trouve dans la bouche de l'apôtre Paul. C'est la réalisation parfaite de ce qu'on trouve annoncé déjà du temps de Moïse. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » On peut déjà en vivre quelque chose dans notre vie d'assemblée, mais ça fait partie des promesses ultimes, finales, notre réunion parfaite avec le Père Céleste. Alors, en conclusion, je dirais que le combat que nous avons à mener dépasse notre condition de terrien. Elle met en jeu des réalités célestes, éternelles. Vous savez, quand on regarde l'homme vivre, il nous semble qu'il vit comme s'il n'allait jamais mourir. Et le monde, pareil, il vit comme s'il n'allait jamais finir. Et le Seigneur, par sa parole, veut nous ouvrir les yeux. Soyons de ceux qui savent regarder lucidement, plus loin, plus haut. À celui qui vaincra, je donnerai l'abondance des bénédictions célestes. Et bien que le Seigneur nous aide, nous fasse cette grâce de pouvoir rester vigilants, combatifs, mais combatifs de la bonne manière, dans notre cœur, en gardant notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour cette parole précieuse qui nous vient du fond des âges, mais qui n'est pas un anachronisme, qui a accompagné la vie de l'Église tout au long de l'histoire et qui est encore vivante, actuelle, précieuse, efficace pour nous aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous désirons être du nombre des vainqueurs. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos limitations, tu connais notre péché, mais tu veux faire route avec nous. Tu veux ouvrir des horizons. Merci pour les promesses éternelles que ta parole contient et que, dès ce jour, nous puissions poursuivre la route en regardant à toi, en comptant sur toi et aussi en donnant autour de nous le témoignage de ta bonté, de ta fidélité et de ta grâce. Amen.